Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 20 mars 96.
Continuons d'essayer de préciser comment notre je suis saisit de notre personne ce que nous sommes au plus intime de notre être et en même temps finalisé par l'amour d'amitié, par la soif de vérité. Ceci réclame, dans cette vision, de la prudence, que nos passions du concupiscible et de l'irascible soient dominées, éduquées, transformées par le point de vue de la prudence. Notre psychisme affectif soit du dedans ordonné vers cette capacité d'aimer spirituellement et d'une recherche de la vérité. Ce serait du stoïcisme. On ne recherche pas à se dominer soi-même pour le plaisir de se dominer. Mais on essaie de faire que tout ce capital affectif qui est en nous, ces capacités forte que représentent nos passions, soit du dedans, ordonné vers quelque chose de plus grand que la passion, qui est l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, de fait, implique les passions. Puisque c'est un amour humain qui saisit tout notre être, tout ce que nous sommes, toute notre personne, disons. Toute notre personne est saisie par ce don que réalise l'amour, ce don personnel que réalise l'amour. Et c'est pour cela que toute cette activité passionnelle demande d'être transformée, éduquée par le point de vue prudentiel. Et donc, par le fait même d'être dépassé vers un bien spirituel, la personne, on aime l'autre. Et si ces passions ne sont pas éduquées de l'intérieur, notre concupiscible, qui est accaparant, le concupiscible fait qu'on aime pour soi et non pas pour l'autre. On aime pour sa propre jouissance. On aime pour le plaisir du don de l'autre, de la présence de l'autre. faire œuvre commune avec celui qu'on aime. Qu'on puisse s'aimer vraiment dans ce dépassement. Le concupiscible fait qu'on attire tout à soi. Ça se voit admirablement chez des enfants parce qu'ils ne cachent rien. Nous cachons ça. Ils ont tout un art extraordinaire de cacher la passion du concupiscible pour attirer à nous le bien sensible. L'enfant le manifeste. Et on voit très bien combien le concupiscible implique cette attraction. C'est pour moi, c'est mon bien. Et cela m'a mon bien individuel, sensible, dans ce qu'il a de tout à fait particulier. Et cette attraction, on replie tout vers soi, on prend tout vers soi, nous exalte. Le concupiscible nous exalte nous-mêmes dans cette jouissance. Vous voyez, c'est comme une espèce de reflet de la gloire au niveau sensible et au niveau individuel. Ce n'est plus une victoire de l'amour, mais c'est une victoire pour nous de l'épanouissement de notre sensibilité qui s'épanouit à ce moment-là, mais qui s'épanouit non pas dans un sens d'aimer l'autre, mais de s'aimer. C'est dans ce sens-là qu'il y a un certain épanouissement dans le concupiscible, momentané, qui est accidentel, puisqu'il reste très sensible, et qui n'atteint pas la personne. La vertu de tempérance, dans ce cas-là, de tout à fait général, la vertu de tempérance et du moins l'acquisition de la vertu de tempérance, disons ça, poser des actes sous la conduite de la prudence qui, de l'intérieur, vont purifier le concupiscible, lui enlever son accaparement. On ne tue pas le concupiscible. Ça, ce serait l'attitude stoïcienne. On ne le tue pas, mais on l'éduque. C'est-à-dire qu'on lui donne une noblesse qu'il n'a pas par lui-même. On l'oriente vers quelque chose de plus grand que lui. C'est le propre de ses actes prudentiels qui nous poussent à offrir ces jouissances charnelles, sensibles, pour aimer d'une manière plus profonde. Vous voyez, au fond, la lutte d'un amour, cette lutte intérieure d'un amour sensible vers un amour spirituel implique comme premier moment cette victoire par rapport à cet amour de concupiscence. Donc un dépassement. On ne s'arrête plus au sensible. On ne s'arrête plus à la jouissance sensible. Alors là, c'est là où il faudrait voir toute la diversité et toute l'extension d'une certaine manière de ce que représente ce point de vue de la vertu de tempérance. Parce que le champ du concupiscible est très vaste et il est différent pour chacun d'entre nous. Puisqu'il est sensible, individuel. Et c'est tous les biens sensibles. Alors prenez, c'est d'abord le point de vue de la nourriture, c'est évident, ou le point de vue de la boisson. Pour l'alcoolique, c'est l'alcool. Et dès qu'il est en face de l'alcool, dans toutes ses variétés, s'est porté vers cela et il vit dans cette jouissance. Je vous ai dit l'exemple du concupiscible chez l'animal, parce que chez l'animal on le voit dans toute sa pureté. Chez les hommes, heureusement que c'est rare qu'il soit dans toute sa pureté, mais ça existe quand même. Les hommes gourmands deviennent gourmets. Et alors il y a l'art qui vient un peu spiritualiser le point de vue, mais le rendre plus dangereux. Parce que la grosse gourmandise, oui, c'est pas drôle, mais c'est plus facile à guérir que le gourmet qui met toute son attention à vivre le avec la plus grande délicatesse de toutes les modalités et de toutes les nuances de la jouissance à l'égard de l'aliment ou à l'égard de la boisson. Là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a un aspect spirituel, faussement spirituel. C'est du spirituel dans le sensible. C'est un art au service du concupiscible et qui permet au concupiscible d'acquérir comme de l'intérieur une certaine finesse, une certaine éducation, une éducation qui s'arrête au sensible, mais il y a une certaine éducation. Ce n'est pas celui qui se précipite comme le chien sur la nourriture qu'on lui donne, il se précipite à toute vitesse. Et je vous ai dit au Sénégal, j'avais fait cette petite expérience. On m'avait dit qu'il y avait ce petit port tout près de Kermoussa. Qu'en allant le matin, très tôt, je verrais l'arrivée des pêcheurs et un spectacle très unique. On ne voit que là. C'est arrivé de ces petits bateaux de pêcheurs, comme au Moyen-Âge. Dès qu'ils arrivent sur la chose, on les met sur des rouleaux de bois, des troncs de bois, pour les pousser sur la rive, et bien pour les pousser sur la mer. Et l'arrivée du poisson, toutes les femmes sont là pour les dépecer. Les oiseaux sauvages ne sont plus sauvages du tout. Lorsqu'on leur présente tout ce que on peut enlever aux poissons, de boyaux, d'intestins, de tout ça, là, c'est un délice pour eux. Ah mais extraordinaire. Ils sont là, on peut les caresser sur la tête. Ils sont dans un état d'extase. C'est extraordinaire. Ça m'intéressait beaucoup plus que de voir ces braves femmes qui enlevaient. C'était le résultat de voir ces animaux. Parce que là, on voit bien ce que c'est que la jouissance sensible, sensuelle, à l'état pur, à l'état nature. Et leur irascibilité, parce que ces animaux sauvages, d'habitude qu'on ne peut pas s'approcher, où ils vous mordent, vous piquent méchamment, toute leur irascible est complètement dominée par cette jouissance. Et ils sont là au repos. Tout à fait. Et c'est une contemplation à l'état très sensible et sensuel. Et c'est une certaine contemplation. Repos. Un absolu. Bien, ça fait comprendre ce que c'est que la concupiscence. Et ça fait comprendre comment la concupiscence, la passion de concupiscence, est à l'origine de l'irascible, plus fondamentale que l'irascible, puisque c'est le bien sensible. L'irascible regarde le bien sensible difficile à acquérir, et donc nous met en état de lutte. Et l'état de lutte est quand même quelque chose de plus noble que l'état de pure jouissance sensible. On voit comment le concupiscible, qui est fondamental au point de vue passion, source de l'irascible et achèvement de l'irascible. L'irascible, j'allais dire, s'éteint dans le concupiscible. Quand le concupiscible est là, l'irascible. On le sait bien, quand un homme a faim, il est facilement en colère. Quand un homme a bien mangé, la colère a disparu. Et l'irascible est comme dépassé par le concupiscible. Alors, chez l'homme éduqué, tout ça est dépassé et se voit moins. Parce qu'il est éduqué, alors ça se voit moins. Il y a un vernis qui fait qu'on voit moins les choses. Chez l'animal, ça se voit à l'état pur. Alors ça fait comprendre comment la vertu de tempérance va s'enraciner dans le concupiscible pour empêcher qu'on s'arrête au concupiscible, qu'on s'arrête dans la jouissance sensible, charnelle, et qu'on s'y arrête au-delà du gourmet, qui est déjà un peu plus noble, puisque c'est le point de vue sensible transformé par un certain art pour jouir plus, avec plus de finesse, un dépassement de ce sensible pour aimer d'une manière spirituelle dans un don. Quand le concupiscible est à l'état pur, il empêche l'amour d'amitié. Et très souvent, l'amour d'amitié ne peut pas grandir à cause d'un manque de vertu de la tempérance. Et dans notre monde, il faut bien reconnaître, où on éduque très peu les enfants à la tempérance, parce que tout de suite on a peur du refoulement. Et c'est là où il faudrait étudier, au point de vue éducatif, la différence du refoulement et du dépassement. Le refoulement, c'est lorsque l'appétit sensible et surtout le concupiscible. Le concupiscible est le premier lieu du refoulement. Ah, le tout petit enfant. Ah. Envie de boire le lait. Et que pour telle ou telle raison, on ne peut pas lui donner tout de suite. On le distrait. Et on dira, on le distrait. On prend une petite cloche, puis... Et là, il ne crie plus. Alors que le cri était un appel vers ce bien sensible qu'il voulait. On le distrait. Et toute distraction implique un refoulement. Forcément. Parce que ce premier appétit sensible est mis à l'écart et on met un autre bien. Mais alors il y a là quelque chose de très net. On a tous été plus ou moins refoulés au point de vue des biens sensibles, heureusement, par une éducation. Si on ne veut pas ça, la vertu de tempérance ne pourra jamais naître, puisqu'elle implique un dépassement pour aller vers quelque chose qui est au-delà, sans détruire, mais simplement dépassant. Et le refoulement, c'est un barrage qui arrête et qui fait qu'à ce moment-là, l'appétit sensible ne peut pas atteindre son bien. Donc il se refoule, il est rejeté. Il est rejeté dans la mémoire, dans l'imaginaire. Il prend une autre direction. Et un jour ou l'autre, il ressortira. Parce qu'il veut son bien. L'éducation, donc le dépassement, consiste que de l'intérieur, ce concupiscible ne soit pas rejeté, mais soit dépassé. Et ceci alors fait partie essentielle de notre personne humaine. La personne humaine ne peut être une personne humaine vraie que si elle a acquis les vertus cardinales. Et la tempérance, elle est première du côté génétique. C'est la première vertu qu'on acquiert, la tempérance. Et c'est ça qui fait la différence entre le dressage et l'éducation. Quand Mono affirmait que dresser un petit chat à être propre ou éduquer un petit enfant à manger proprement, il sait que c'est exactement la même chose. Et c'est pas du tout la même chose. Puisque d'un côté, c'est tout simplement un dressage artistique qui vient de l'extérieur et qui fait que le petit animal, on lui inflige des mœurs qui ne sont pas pour lui, mais qui viennent de son maître ou de sa maîtresse. Tandis que l'enfant qu'on éduque, c'est de l'intérieur que la passion du concupiscible doit être ennoblie et doit être soumise à la prudence, doit être comme une matière que l'acte prudentiel, dont l'acte prudentiel se sert pour que cette énergie passionnelle soit ordonnée à un amour spirituel et permette à l'amour spirituel de garder toute sa ferveur, toute sa force fondamentale, puisque le premier amour, c'est toujours un amour passionnel, génétiquement. C'est le premier amour. Vous ne pouvez pas en avoir comme premier amour un amour spirituel, sauf si vous êtes des déjà très éduqué et très spirituel, alors à ce moment-là, l'amour spirituel peut l'emporter. Mais autrement, un petit enfant qu'on éduque, il est bien évident qu'on l'éduque premièrement du côté du concupiscible, du côté sensible et du bien sensible. Première éducation. La première éducation, c'est de mettre un ordre au moment où l'on se nourrit et ne pas laisser l'instinct. Parce que ce qui est très important à comprendre, c'est que l'appétit naturel, sensible du concupiscible, c'est instinctif. Et aujourd'hui, on appellera ça l'instinct, l'instinct de boire et de manger. Ce que Thomas d'Aquin appelle l'appétit naturel. Et le danger, quand on parle d'instinct, c'est qu'on ne voit pas comment l'éduquer. Tandis que quand on voit l'appétit sensible, on voit comment cet appétit sensible peut devenir un appétit spirituel. Et c'est là la question des mots et l'invention des mots. À quel moment posez-vous la question? On n'a plus parlé d'appétit naturel, on a parlé d'instinct. C'est, je crois, très important. Et au point de vue de la personne humaine, on comprend comment la personne humaine implique dans sa propre personne l'appétit sensible, naturel. Ça fait partie de notre corps, ça fait partie de notre être. Dans le devenir, c'est là où notre être est entièrement soumis au devenir et demande d'être éduqué et transformé par la vertu. Cet appétit, cette tempérance à l'égard du boire et du manger va s'étendre à l'égard de tout ce qu'on appelle aujourd'hui le point de vue sexuel. Et vous voyez, c'est ça qui est aussi très important à souligner. Et quand il s'agit de la personne humaine, on a une conscience plus nette et plus forte. Ce n'est pas encore un regard de sagesse, mais c'est un regard prudentiel. D'une sagesse pratique, d'une sagesse à l'intérieur même de ce que représente l'appétit sensible. Il y a cette grande orientation de l'appétit sensible à l'égard des biens sensibles de nourriture et à l'égard du point de vue sexuel. Deux orientations distinctes, mais qui, depuis Freud, on ne voit plus la distinction. Et je crois que c'est très dangereux de ne plus voir la distinction entre les deux. Et on doit bien voir la distinction entre les deux pour comprendre comment la tempérance va se transformer en vertu de chasteté. Il n'y a pas une vertu de chasteté à l'égard de l'aliment. Vous n'allez pas dire je suis chaste quant à l'aliment, quant à la boisson. Non. C'est la vertu de tempérance, tout simplement, qui consiste à manger convenablement. D'abord pour ne pas être malade, et plus profondément pour pouvoir rester un homme conscient de ce qu'il est et capable de travailler après un très bon repas. Parce que certaines personnes ont pris tellement un très bon repas qu'ils sont incapables de travailler intellectuellement après un très bon repas. Ils ont manqué de tempérance. S'ils s'il devait prêcher, s'il devait faire oraison. Mais c'est en vue de ce que nous devons faire que nous sommes tempérants. C'est pour pouvoir être capable de vivre ce qu'on doit faire et en même temps prendre la nourriture nécessaire pour se fortifier, pour réparer les forces. La chasteté regarde l'appétit naturel à l'égard de ce qu'Aristote dit, et je crois qu'il a raison, et ce que saint Thomas a repris. Ce bien sensible qui relève de l'appétit naturel à la procréation. Et alors, on l'a séparé en mettant l'instinct sexuel. Et on ne voit plus l'appétit naturel faire ce bien de l'espèce qui est la procréation. La procréation, c'est en vue que l'espèce humaine continue. Si tous, tous les hommes et toutes les femmes voulaient vivre d'une chasteté parfaite, il n'y aurait plus la procréation. Alors à ce moment-là, l'espèce humaine s'éteindrait. C'est sûr. La diminution de naissance provient de faits qu'on a séparés, pas seulement distingués, le point de vue sexuel, de la jouissance sexuelle, de la finalité de l'appétit naturel à l'égard de la procréation. Et c'est là où il y a quelque chose de, au point de vue de la personne humaine, à bien comprendre. La personne humaine peut intégrer, et elle doit le faire pour être une vraie personne humaine. Elle doit intégrer ce que représente l'appétit naturel de procréation. Cette attirance instinctive et naturelle de l'homme vers la femme, en vue d'un don mutuel des corps pour la procréation. Et la finalité, c'est la procréation. Et c'est pour ça que cet appétit a une véhémence et une force beaucoup plus grande que l'appétit individuel du boire et du manger. Parce que il est double. Et il est en vue de la procréation. Donc il implique un don beaucoup plus profond, qui va beaucoup plus loin et qui est radical. Cet appétit naturel va impliquer une jouissance sensible, sensuelle, charnelle, sexuelle, peu importe le nom que vous mettez, qui est une jouissance dans ce don de l'un à l'autre, de l'homme à la femme, de la femme à l'homme, en vue de la procréation. moment-là la vertu de chasteté, l'acquisition, je dis bien l'acquisition de la vertu de chasteté, consiste à faire que tout cet appétit sensible et cet instinct sexuel soient dépassés, pas refoulés, dépassés. De l'intérieur, en vue d'un amour spirituel, en vue de l'adoration, de la vertu, de religion. Voyez, c'est là où il faudrait regarder l'erreur. A pris possession pratiquement du fondement de la psychologie de la plupart des psychologues. Ils sont tous un peu freudiens. Donc, ils assument une erreur qu'ils ne voient pas du reste. Ils croient que c'est naturel. Ils assument une erreur parce qu'ils ne font pas la distinction entre l'appétit naturel à l'égard de la nourriture et l'appétit naturel à l'égard de la sexualité, à l'égard de la procréation. Il y a deux finalités. Et ces deux finalités demandent d'être distinguées pour être assumées. La finalité de la nourriture, et la liturgie, vous avez faim. Et si on vous disait alors à ce moment-là, eh bien aujourd'hui, vous ne prendrez rien. Alors certains se sont habitués à ça et peuvent très bien le matin ne prendre qu'un verre d'eau. Pas glacé, mais un verre d'eau. Et qu'il faut glacer. Et à dominer pleinement cet appétit. Et ils ne mangeront qu'à midi ou une heure. Ils tiendront. Ça peut se faire. D'autres essaieront et puis attraperont un mal de tête effrayant à partir de 9 heures. Et tout le reste de la matinée sera pourri à cause de cette mal de tête. Alors, voyez, la prudence dit non. Mais non, c'est stupide de faire ça. Alors, à moins que vous vouliez être un athlète qui dépasse complètement cet appétit naturel du boire et du manger. Si on veut être un athlète, on peut l'être quand on est jeune. On sent très bien à un moment donné. Est-ce que je fais de la 16 pour la 16 ou est-ce que je fais de la 16 pour être intelligent? Il y a le sportif qui fait la 16 pour le sport, très bien, avec les compétitions. Il n'y a pas encore de compétition à l'égard de cette ascèse radicale du boire et du manger. Vous présenterez quelqu'un qui peut, pendant je ne sais pas combien de temps ce serait possible, ne rien manger. Mais c'est ce que certains ont dit, par exemple, pour Marthe, qui depuis 1930 jusqu'à 1981 n'a rien mangé. Ben, c'est un sport. Hein. Et j'ai entendu certains qui m'ont dit, mais oui, ça peut être naturel. Je crois pas. Je voudrais bien voir quelqu'un qui le fait vraiment, en disant je le fais uniquement en dominant mon corps. Plus manger du tout. Je crois que là, il y a un charisme, comme on dirait. C'est l'ordre du charisme. Normalement, vous voyez, la chasteté, elle peut arriver à dominer complètement l'instinct sexuel. Et c'est pour ça qu'on dit chasteté parfaite. On tend vers la chasteté parfaite. Tandis que vous ne direz pas, je tends vers une tempérance parfaite à ne plus manger. Et la différence, on le voit tout de suite au point de vue éducatif. Et au point de vue chrétien. Je sais très bien qu'il y a eu des stylites. Des stylites. Les stylites, vous savez bien, ils se mettaient sur une colonne et puis ils restaient là, seuls, puis mangeaient presque au bord. Alors on tend vers, il y avait un aspect un peu sportif. Manger du tout, à manger que très peu de choses. Alors ils étaient montrés comme exemple de christianisme, c'est pas un exemple de christianisme, c'est un exemple d'ascèse. Et dans toutes les religions, il y a de l'ascèse. Dans toutes les religions. Donc ce n'est pas bon en soi l'ascèse. Tout dépend ce que vous en faites. C'est une certaine domination de soi. Alors voyez bien que quand il s'agit de la nourriture, la vertu de tempérance fait qu'on mange et on boit pour garder sa santé en vue de mener une vie d'étude, en vue de l'amour d'amitié, en vue de la prière. Les finalités différentes. Et la vertu de tempérance est une vertu justement de tempérance, on tempère ce qui est nécessaire pour se donner entièrement à ce qu'on doit faire. C'est finalisé. Pendant le carême, je mangerai moins pour de fait, non pas du tout maigrir. C'est pas pour ça. Pour certains peut-être, mais normalement c'est pas pour ça. La vertu de tempérance a pas comme premier but maigrir. La vertu de tempérance a comme premier but d'offrir toutes ses forces instinctives très puissantes en nous, du concupiscible et de l'irascible, en vue de en vue de la recherche de la vérité, donc de l'étude. La vertu de chasteté peut être parfaite. Bon, ça c'est un petit signe, vous voyez. C'est un petit signe qui montre que on domine autrement l'appétit sensible du boire et du manger et l'appétit sexuel ou l'instinct sexuel. L'appétit en vue de la procréation. Pour celui qui, pour des raisons religieuses, parce que je crois que ce sont les seules raisons qui justifient une chasteté parfaite. Ça, il y a un problème qu'on regardera après, qui est très important. Est-ce que je pourrais faire vœu de chasteté parfaite sans faire un vœu religieux de religion, c'est-à-dire tout simplement dire j'ai décidé de tendre vers chasteté parfaite, j'y arrive pour des buts de travail pour être libéré de cet appétit tyrannique plus moi-même dans mon individualité. Est-ce qu'on aurait le droit, ça ? Et un point d'interrogation. Ce qu'on voit, alors, au point de vue religieux, c'est qu'on tend vers cette chasteté parfaite, c'est-à-dire que l'instinct demeure, forcément, et d'une certaine manière, l'instinct est plus fort. Si quelqu'un vit une vie chaste, que s'il vit une vie qui est à la manière de Don Juan, à la manière un peu de Freud, tous les instincts doivent être satisfaits. N'arrêtez jamais un instinct quand il s'éveille. Ça, c'est Freud. Et à ce moment-là, l'instinct perd de sa force, forcément. Il n'est pas canalisé. Il est sauvage. Il est à l'état nature. Tandis qu'au contraire, celui qui cherche la vertu de chasteté va lutter contre cet instinct pour essayer de le dominer. Alors, il y a mille manières de vouloir dominer cet instinct. Mais il veut le dominer, donc, de l'intérieur. Et en même temps, de l'extérieur, par la volonté. Il va essayer de le dominer. Et il le fera progressivement pour arriver par la prière. Alors, avec le secours de Dieu, pour le chrétien, c'est net. Dominer cet instinct quand cet instinct s'éveille. Quand cet instinct ne s'éveille pas, très bien, il n'y pense pas. Pas besoin de penser. Quand il s'éveille, il le domine. En l'offrant. Et grâce à la vertu de chasteté, au point de départ, grâce à des actes humains qui veulent offrir cet instinct au Seigneur pour lui montrer que tout est à lui. Et c'est vrai, cet instinct vient de Dieu. Il est naturel, donc il n'est pas mauvais. Il est en soi, il reste humain. Si je l'utilise d'une manière humaine, oublier, tout ce qui est commun à l'animal et à l'homme n'est pas immédiatement humain. C'est animal. Or, l'instinct sexuel existe chez l'animal à l'état pur. Puisque l'animal ne cherche pas à être vertueux et à être chaste. C'est une vertu typiquement humaine. Que c'est la vertu qui domine, qui essaie d'éduquer, de rendre humain un instinct qui est fondamentalement animal, l'instinct de procréation. C'est fondamentalement humain, fondamentalement animal, je veux dire. Et qui a une force plus violente si on ne l'éduque pas. L'instinct de boire et de manger, puisque c'est l'espèce. Et c'est ça que Aristote note, et il a raison. Et c'est ça que Freud n'a pas eu. Évidemment, ça, il faut une analyse philosophique. Au niveau purement psychologique, je ne peux pas faire cette distinction. Mais au point de vue analyse philosophique, je peux la faire. Et alors, je comprends, alors à ce moment-là, comment la personne humaine par la chasteté et par une chasteté parfaite acquiert une possibilité d'offrir à Dieu, au Christ, ce qu'il y a en lui fondamentalement. moralement, de plus vital, parce que c'est la vie biologique, ça, et de l'offrir à une finalité plus grande, de l'offrir à Dieu. La vertu de chasteté, quand elle est pour quelqu'un qui ne fait pas ce vœu de chasteté, consiste justement à dominer ces instincts qui peuvent s'éveiller à droite ou à gauche et qui demandent d'être canalisés en vue de pouvoir réaliser un acte d'amour avec quelqu'un qu'on aime dans, si on est chrétien, dans le mariage, si on est humain, dans une alliance humaine, avec promesse de fidélité, à cause du don du corps et à cause de cette finalité qui est la procréation, qui peut être le fruit de cette union, le fruit de cet amour commun et de ce don du corps. Et ce fruit, c'est le petit enfant, c'est l'embryon, c'est au point de départ. C'est un autre être dont l'homme est responsable, dont la femme est responsable. Parce que dès le point de départ, il devient père et mère pour montrer leur responsabilité. C'est dans ce sens-là que comme l'enfant naît dans la petitesse, il a besoin d'être éduqué, il a besoin de quelqu'un qui soit auprès de lui. La fidélité. Vous voyez, à ce moment-là, la chasteté consiste à être fidèle à l'alliance avec quelqu'un, avec celle considère pour être sa femme, son épouse. Et la chasteté consiste à dominer ces pulsions purement biologiques et instinctives et sexuelles en vue d'un don plus parfait. Et c'est toujours finalisé par l'amour. Parce que cet instinct, qui est un instinct d'amour, qui est très fondamental et très instinctif, c'est quand même un amour, ne peut être dépassé que par un amour plus grand. C'est pour ça que saint Thomas, alors là il le fait en théologien et en chrétien, saint Thomas dit que la vertu de chasteté ne peut être parfaite que s'il y a la contemplation. Et on le voit bien. Ceux qui se consacrent à Dieu et qui n'ont pas le désir de contemplation ne tiennent pas et ne peuvent pas tenir. C'est impossible. C'est la contemplation seule. Vous voyez, c'est-à-dire un amour supérieur qui peut assumer cet amour fondamental